Et oui, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, nous sommes sur ce salon du livre du Grand Narbonne. C'est le deuxième et dernier jour, je vous le dis. Donc, il faut venir aujourd'hui sur le cours Mirabeau. C'est gratuit. On a de nombreux auteurs qui sont présents. Et moi, j'ai la chance ce matin de retrouver Laurent Olivier, qui est archéologue, historien et conservateur en chef du patrimoine au musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des sociétés celtiques et gauloises et aussi auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent, sur le monde secret des Gaulois. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Donc Laurent Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours, ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans l'étude de la Gaule?
Je suis archéologue, c'est-à-dire que ce qui m'a toujours passionné, c'est les fouilles, la recherche du passé, le fait que le passé soit enfoui dans le sol, en fait, et qu'il suffise de creuser pour le trouver. Et ce qui m'a toujours intéressé avec les Gaulois, c'est que c'est le goût pour les peuples vaincus, en fait, les peuples écrasés. Et l'archéologie a quelque chose à faire avec la justice, en fait, parce que ça trouve ce qu'ont fait les gens et ce qu'on a fait aux gens. Donc, c'est au-delà de ce qu'on en a raconté, c'est ce qui leur est vraiment arrivé. Et donc, c'est une manière de rendre une voix aux gens qui n'ont pas eu la voix dans l'histoire.
D'accord. Et ça vous est venu tout petit? Vous étiez déjà passionné d'archéologie?
Je pense que c'est à partir de 7 ans. Hein. C'est souvent à partir de cet âge-là que les enfants commencent à avoir des passions, des rêves. Et souvent, les enfants les abandonnent, ces rêves, hein, de vouloir être pompier, de vouloir être archéologue, explorateur, marin. Et moi, ça m'est resté. Voilà, donc je suis resté toujours un enfant de 7 ans quelque part.
Et justement, Laurent Olivier, dans votre dernier livre, Le monde secret des Gaulois, vous proposez une nouvelle histoire de la Gaule. Quelles sont les principales idées que vous y développez cette fois?
Si vous voulez, la Gaule, c'est l'histoire de la colonisation par les Romains. Et ce qu'en ont dit les Romains, c'est la manière dont ils les voyaient, eux, à travers leurs yeux. Et on n'a pas de témoignage direct d'eux-mêmes. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller à la rencontre des Gaulois et d'essayer de comprendre ce qu'ils sont en eux-mêmes au-delà du regard qu'on porte sur eux. C'est pour ça que l'anthropologie, elle est très importante parce que c'est une discipline qui permet de comprendre comment fonctionnent les sociétés, quels sont leurs mécanismes. Et donc, on peut lire autrement la manière dont les Grecs et les Romains les ont décrits, et ils les ont décrits avec leurs propres lunettes romaines et grecques, si vous voulez. Et en fait, il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises ou qu'ils ont vues d'une manière déformée. Et donc, c'est l'idée d'essayer de corriger un petit peu ça et de voir comment la société gauloise fonctionne de l'intérieur, en fait.
Alors finalement, les découvertes archéologiques récentes ont vraiment modifié notre compréhension des Gaulois, si je comprends bien, par rapport aux récits traditionnels. C'est ça que vous voulez faire ressortir?
Le récit traditionnel, c'est toujours le récit du colonisateur qui explique que ce qu'il fait, c'est grand, il apporte la civilisation, et puis les autochtones, c'est pas grand-chose. Et en fait, on a été beaucoup dominés par ce regard-là. Par exemple, jusqu'aux années 1970, on pensait que les Gaulois habitaient dans des cabanes creusées dans le sol, alors qu'ils habitaient dans des maisons. C'est à la fin des années 1980 qu'on a découvert qu'ils avaient des sanctuaires. On pensait que c'était des druides qui coupaient le gui dans les arbres et qu'il n'y avait pas de temple. Et là, récemment, depuis les années 2000-2010, on découvre des bâtiments publics, on découvre qu'il y a des instances politiques. Enfin bref, c'est une vraie culture, ce sont des vraies nations.
Donc en fait, avec l'archéologie, on fait avancer continuellement, on évolue, c'est ça qui doit être passionnant. On est à la quête de nouveaux indices, en quelque sorte, Laurent Olivier. Et vous expliquez aussi que dans vos livres que la politique instrumentalise l'histoire. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu cette notion aux auditeurs de Grand Sud FM?
C'est pas exactement ça. C'est l'idée que, en fait, dans le passé, on cherche souvent des réponses du présent. Et ce qu'on voit, c'est que le regard qu'on porte sur le passé, il change en fonction des époques. Par exemple, à l'époque de Napoléon III, où on développe la colonisation de l'Algérie, on trouve que l'époque romaine, c'est super, ça amène la civilisation. Et puis, vous avez la guerre de 70, où on arrache l'Alsace-Lorraine à la France, vous avez la Première Guerre mondiale, et là, on se dit, mais c'est terrible d'être envahi, c'est terrible de perdre une partie du pays. Et finalement, Vercingétorix, c'est pas le brave gars qui accepte d'être romanisé et qui accepte d'être civilisé, c'est quelqu'un qui défend son pays. Vous avez la période du régime de Vichy, et là on dit, regardez, Rome, l'Allemagne, c'est à peu près la même chose, il faut qu'on s'intègre dans la grande Allemagne comme on s'intégrait dans la grande Rome. Et puis la résistance arrive, et on dit, mais Vercingétorix, c'est un résistant, c'est un partisan. Donc vous voyez, le regard, il change sur le passé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des nouvelles questions. Par exemple, on s'intéresse beaucoup aux questions d'environnement, des questions qu'on ne se posait pas du tout ne serait-ce qu'il y a 50 ans. Donc c'est dans ce sens-là que, pas la politique au sens noble, hein, c'est-à-dire la vie commune, ce qui nous intéresse tous, c'est dans ce sens-là que ça ne veut pas dire qu'on invente des choses, ça ne veut pas dire qu'on trouve des choses qui n'existent pas, mais c'est une autre manière de regarder le passé et d'y trouver de nouvelles réponses.
Voilà, c'est ça aussi l'archéologie finalement. Laurent Olivier, on aura la chance cet après-midi à 15h30 de vous retrouver sur l'espace rencontre, alors du Salon du Livre du Grand Narbonne, sur le cours Mirabeau, je le rappelle, c'est gratuit. On va vous retrouver sur le thème « Regard renouvelé sur les Gaulois ». Donc c'est un rendez-vous qui s'adresse à tous, aux petits comme aux grands.
Bah évidemment, ça s'intéresse à tous ceux qui s'intéressent au passé gaulois, qui s'intéressent aussi au passé de la région, au passé de Narbonne, au passé du Midi de la France, qui a été romanisé plus tôt que le nord de la Gaule. C'est à tous ceux qui s'intéressent finalement à la culture, à ce que sont les gens, à ce qu'est le passé, et surtout à ce que le passé nous dit aujourd'hui.
Vous étiez déjà venu à Narbonne ou pas, Laurent Olivier ?
Oui, je suis venu souvent. Je suis venu au musée, souvent au musée Narbovia. J'aime beaucoup Narbonne. Hein, c'est la ville de Charles Trenet. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis surtout le climat est super par rapport à la région parisienne où il fait toujours humide, où il pleut. C'est une région que je n'aime pas beaucoup.
Bon, ben, peut-être on aura la chance de vous accueillir un jour dans le sud. En tout cas, merci beaucoup Laurent Olivier pour cet éclairage sur l'histoire des Gaulois et le rôle essentiel de l'archéologie dans la compréhension de notre histoire. Moi, je vous donne rendez-vous cet après-midi, ça va être passionnant, 15h30, donc à l'espace rencontre sur le Salon du Livre du Grand Narbonne. Et puis, n'hésitez pas à venir retrouver le dernier livre de Laurent Olivier, Le Monde Secret des Gaulois. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, je vous laisse profiter, vous êtes là jusqu'à quelle heure?
Je vais jusqu'à 17h.
Bon, jusqu'à 17h, on a dit le stand numéro 19, le stand Libellis. Bon, c'est simple, hein, vous rentrez dans le Salon du Livre, c'est le deuxième stand à gauche. Merci beaucoup Laurent Olivier et bon salon.
Merci, au revoir.
Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Grand Sud FM. Effectivement, je suis avec Alexandre Marcel, et qu'on appelle aussi Papa Plume, tout simplement, à proximité du stand 18 où il vous attend justement au Salon du Livre du Grand Narbonne. Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous.
Alors Alexandre, on va commencer par une première question, parce que ce matin, c'est une matinée un petit peu plus calme pour vous. Hier, vous avez animé un petit déjeuner littéraire. Comment ça s'est passé?
Eh ben super bien. J'étais entouré d'une dizaine de lectrices, j'allais dire lecteurs, mais en fait, avec que des lectrices. Et on a discuté de mon dernier roman, de mes autres romans, dans une super ambiance, avec des délicieuses viennoiseries. Donc c'était super pour commencer le salon, qui est un très très joli salon en bord de canal. Il fait beau, ça fait plaisir, donc je suis vraiment ravi d'être là.
Ouais, vous l'avez pas manqué le petit-déj, là vous étiez avec le Stablé là tout à l'heure.
Ouais, j'ai découvert cette spécialité locale à la fleur d'oranger, et quand j'ai croqué dedans, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de la fleur d'oranger, je pensais juste en sablé un peu classique, et j'adore la fleur d'oranger, donc belle découverte.
Belle découverte. Bon, on va parler quand même de vos ouvrages maintenant, Papa Plume, mais surtout du premier, enfin, ce qui vous a permis de devenir un petit peu auteur, justement. Donc, ça a été la naissance de votre fille en 2018. Justement, ça a vraiment été le déclic pour vous, la naissance d'Ambre?
Oui. Alors, auparavant, j'avais écrit quelques manuscrits, mais qui sont restés dans mes placards. Et quand ma fille est née, je me suis dit, mais attends, tu avances toutes les histoires les plus incroyables, et sauf que la plus merveilleuse, bah, elle est là, elle te tombe dessus, c'est la naissance de ta fille. Donc, si t'écris pas sur ça, sur quoi t'écris, quoi? Et ouais, c'était un tel chambardement que je ne pouvais pas ne pas écrire là-dessus.
Ouais, donc le premier livre, ça a été « Je ne m'attendais pas à ça », qui est du coup sorti du coup dans la même année que la naissance d'Ambre. Et donc ce livre, est-ce que pour vous, ça a été une sorte d'écriture pour vous rassurer tout simplement de ce moment, enfin de ce changement de vie pour vous, vu que vous étiez devenu papa?
Ouais, ben moi je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Je trouve plus facilement les mots à l'écrit, et c'était une manière de trouver les bons mots sur ce que je ressentais, qui était vraiment un tsunami d'émotions. Donc c'était d'une part écrire pour moi, pour comprendre un peu ce qui se passait en moi, et puis pour ancrer un peu ces souvenirs sur le papier, et puis pour d'autres gens, quoi, pour d'autres papas qui allaient devenir papa, en me disant peut-être qu'ils se retrouveront dans mes mots, peut-être que ça les rassurera, peut-être que ça leur fera du bien, peut-être que ça les fera déculpabiliser, et si ça aide ne serait-ce qu'un papa, et j'aurais réussi mon coup, quoi.
Ouais, effectivement. Et donc ce livre, on peut le retrouver bien sûr sur votre stand, au stand 18.
Alors non, je ne m'attendais pas à ça, mais il est disponible partout en librairie, sur les plateformes en ligne.
Bon, par contre, on peut retrouver d'autres livres justement sur votre stand de 18, dont notamment votre dernier ouvrage, Le fil de nos vies, où on suit un certain Léo qui défie les attentes familiales pour vivre sa passion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans tout dévoiler?
Oui, l'histoire c'est ça. C'est un Léo qui est un petit gars du sud. Qui va devenir, contre toute attente, parce que sa mère est coiffeuse et son père tient un magasin de sport, qui va devenir l'un des plus grands couturiers du 21e siècle. Et l'histoire se concentre sur un été, l'été de ses 20 ans, qui va définir comme l'été de sa vie, où tout va basculer pour lui, où il va monter à Paris et découvrir une maison de couture que j'invente qui s'appelle Arturka. Et il va lui arriver plein d'aventures. Il va lui arriver des choses merveilleuses et des choses dramatiques. Et voilà. Et donc, c'est l'histoire de ce Léo, de ses aventures. Ça, on plonge dans le milieu de la couture. On plonge dans une très belle histoire d'amour entre lui et sa mère. Une histoire d'amour magnifique, mais plus compliquée avec son père. Voilà. C'est un roman qui est très joli, qui se passe entre le sud et Paris, qui est, je pense, entraînant et j'espère émouvant.
Ouais, on va se retrouver un petit peu dedans justement pour même les auditeurs auditrices de Grand Sud FM. Donc celui-ci par contre, il est disponible sur le stand 18 au Salon du Livre du Grand Narbonne. Et donc en plus d'être auteur, vous êtes créateur de contenu, vous avez une grosse page Instagram avec plus de 280 000 followers. Alors 280 000 personnes qui vous suivent pour ceux qui n'ont pas le terme follower. Comment vous avez vécu cette notoriété parce qu'elle est arrivée assez vite au final?
Ben, je pense qu'on est, l'humain n'est pas vraiment câblé pour être suivi par autant de personnes. Ça fait toujours un peu bizarre. Mais je pense que quand on a un ancrage familial solide, enfin moi j'ai une éducation qui est très solide, voilà, que m'ont donné mes parents. J'essaie de donner la même à mes enfants, dans la bienveillance, mais dans la rigueur, on va dire. Enfin voilà, je pense que quand on a cet ancrage là, on est armé contre toutes les tempêtes. J'en ai essuyé parce que quand on devient quelqu'un d'un peu connu et qu'on s'engage sur des sujets tels que l'éducation non violente, les préjugés de genre, ce genre de choses, on peut essuyer des tempêtes, mais quand on a le bon ancrage et une famille qui est à nos côtés, soudée, on est prêt à, il n'y a pas de problème, quoi.
Donc vos actualités, on peut les retrouver sur votre page Facebook et Instagram, surtout Instagram, donc Papa Plume, donc tout simplement, marque Papa Plume sur Instagram, on vous trouve. Et en plus, vous l'avez dit, vous avez mené pas mal de combats, dont notamment celui d'allonger le congé paternité, qui est passé de 14 à 28 jours en 2021, si je dis pas de bêtises. C'est quoi la suite justement pour vous? Est-ce que pour vous ça suffit ou il va falloir continuer justement ce combat pour essayer d'allonger encore plus?
Non, ça suffit pas. Alors en effet, je me suis engagé avec un collectif de papas, sachant que on va pas tirer toute la couverture à nous. Avant, il y avait beaucoup d'associations, notamment féministes, de parents, etc., qui s'étaient battus pour l'allongement de ce congé qui était beaucoup trop court. Donc on a eu la chance de rencontrer le secrétaire d'État, le Premier ministre, etc. Et on a été un peu les derniers relayeurs de cette longue course. C'est, à mon sens, toujours pas assez. Okay. Le problème, c'est aujourd'hui que le gouvernement change tous les 4 mois. Qu'on m'a proposé de faire partie de commission, sauf que entre le moment où je dis oui, enfin le moment où on le propose et le moment où je dis oui, le gouvernement a déjà changé. Donc c'est très très compliqué de faire évoluer les choses. Mais quand on voit ce qui se passe dans les pays nordiques ou même en Espagne, enfin il y a plein de pays dans lesquels ils ont beaucoup plus. Et plus le congé paternité sera long, plus il se rapprochera du congé maternité, plus on ira vers une égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit à la maison ou dans le monde professionnel.
Ouais, donc ça restera un de vos combats, bien sûr. Et sinon, niveau projet littéraire, pour finir cette interview avec vous, Alexandre Marcel, vous avez des projets pour la suite?
Bah écoutez, déjà, j'ai Le Fil de nos vies qui vient de sortir. J'ai Amour 2040 qui est passé en poche, qui s'appelle maintenant Nos vies rêvées. Donc ça fait deux actualités là très rapprochées. Et je suis dans l'écriture de mon 4e roman qui devrait sortir l'année prochaine, si tout va bien.
Ok, donc on n'a plus qu'à attendre l'année prochaine pour découvrir votre nouveau livre. Du coup, en tout cas, merci Alexandre Marcel, alias Papa Plume, de nous avoir accordé quelques minutes au micro des Grand Sud FM.
Merci à vous, bonne journée.
Je suis sur le stand numéro 10 et je suis avec Marie Bouly qui est autrice, qui est animatrice d'ateliers d'écriture également, qu'on connaît pour certains avec Le Chant du Bois, un ouvrage qui a été récompensé par le prestigieux Grand Prix de la Société des gens de lettres, mais aussi on la connaît avec son dernier ouvrage qu'on va découvrir tout à l'heure, La dernière fois qu'on s'est aimé, et ça c'est paru en octobre 2024. Bonjour Marie.
Bonjour.
Donc Marie Boulic, vendredi, vous avez eu la chance de rencontrer des élèves qui ont étudié votre roman et qui, j'imagine, avaient beaucoup de questions à vous poser. Comment se sont passées ces rencontres? Parce qu'il y en a eu 3 et une assez surprenante avec une classe de CAP menuiserie.
Oui, c'était complètement inattendu parce que j'avais pas tellement décortiqué la feuille de route. Et en fait, donc j'ai eu une classe de 5e qui a très très bien lu des extraits du livre. Donc ça fait toujours très plaisir. Et puis avec l'accent, c'est enchanteur. J'ai eu une classe de 4e ensuite et donc voilà, ils ont tous des questions à poser tout à fait pertinentes. Et puis la classe de CAP menuiserie dans l'après-midi. Et eux, en fait, j'ai découvert qu'ils avaient travaillé le livre avec leur prof de français, mais qu'ils ont aussi réfléchi à la fabrication du violon et rencontré un luthier avec leur prof de menuiserie. Et ça, ça donne une dimension complètement supplémentaire, c'est vraiment un supplément d'âme par rapport à l'histoire.
Et oui, vous me disiez tout à l'heure, c'est la première fois que vous avez l'occasion de rencontrer une classe CAP menuiserie.
Oui, et puis c'est un texte quand même assez exigeant, donc d'un seul coup, avoir une classe de CAP face à soi, c'était que des garçons, et c'était assez magique de les voir malgré tout investis dans la rencontre Ah ouais, c'était formidable. Franchement, je m'y attendais pas. C'était vraiment une super surprise.
Est-ce que ça, c'est hyper important pour vous, Marie Boulic, d'aller à la rencontre des jeunes?
C'est hyper important parce que quand on écrit, on est tout seul dans son bureau. Et puis, on vit le texte, on le sent grandir en soi. Et puis après, on le livre. Et le voir comme ça en rencontre, voir les jeunes se l'approprier, voir à quel point ils peuvent s'attacher à l'histoire, au personnage et poser des questions qui sont hyper pertinentes. Et c'est finalement l'aboutissement. C'est écrire pour être édité, c'est une chose, mais c'est pas du tout une finalité en soi. La rencontre et le texte qui grandit à travers les jeunes, c'est là vraiment, c'est la consécration.
Alors justement, Marie Boulic, quand même, Le Chant du Bois, on l'a dit tout à l'heure, a connu un grand succès. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut le présenter aux auditeurs et peut-être aux jeunes qui nous écoutent ce matin, qui vont pouvoir venir vous voir? Mais attention, hein, avant midi.
Le Chant du Bois, oui, c'est une histoire assez originale parce qu'elle est inspirée de faits réels. C'est l'histoire. Alors moi, j'ai pris le parti de faire parler un arbre sur sa vie, de sa vie d'arbre, son expérience. Et puis, il est coupé, il devient une barque de pêcheuse en Tunisie. Et ensuite, la barque est récupérée au cimetière de bateaux de Lampedusa. Elle se sent dépérir, mais va connaître une deuxième renaissance dans les mains d'un luthier. Et ce luthier, en fait, c'est un prisonnier de la prison de Milan-Opéra, dans laquelle sont enfermées des peines longues, des personnes condamnées pour peines longues, dont souvent des gens de la Cosa Nostra, qui viennent là racheter un peu leur faute en travaillant ce bois pour, c'est comme ça qu'ils le disent en tout cas, pour préserver la mémoire des migrants, puisque les instruments à cordes qui sortent de cette lutherie sont prêtés ensuite à travers le monde, forment un orchestre qui s'appelle l'Orchestre de la Mer, qu'on peut voir jouer à la Scala de Milan sur Internet. Il y a une vidéo et c'est absolument magique. C'est des instruments qui sont tout à fait extraordinaires parce que la peinture a été conservée, la peinture des barques. Donc, c'est des instruments qui sont bariolés. Et voilà, et c'est tout à fait sublime de voir cette histoire-là parce que pour moi, elle véhicule vraiment des valeurs humanistes et positives. C'est vraiment pour moi le meilleur de ce que l'humanité peut pour l'homme.
Voilà, mais ces valeurs ont été récompensées, hein. On l'a dit tout à l'heure, Le Chant du Bois, vous avez reçu le prestigieux Grand Prix de la Société des gens de lettres. Est-ce que finalement, Marie Boulic, cette reconnaissance vous a apporté quelque chose de plus?
Ça m'a apporté un supplément de conscience, c'est-à-dire que quand on écrit, les textes vibrent pas de la même manière tous en nous, et celui-là, il vibrait vraiment d'une manière tout à fait particulière. Bon, c'est un violon, ok, mais au-delà de ça, il y avait vraiment, j'avais l'impression que le texte me traversait, c'était assez étonnant, la poésie s'écrivait. On me demande parfois d'animer des ateliers sur le vers libre, puisque c'est un texte écrit en vers libre, et je suis incapable de le faire. Je ne sais pas expliquer comment j'ai fait ça, et un gros, gros regain de confiance. Oui, ce prix de la SGDL, de la Société des gens de lettres, pour moi, ça a été une reconnaissance, une petite forme d'aboutissement.
On vous sent très émue, Marie Boulic, quand vous en parlez.
C'est un texte auquel je tiens beaucoup, oui.
En tout cas, ça se sent et ça se voit. Donc, venez à la rencontre de Marie Boulic, vraiment Le Chant du Bois, stand numéro 10. J'aimerais quand même parler de ce dernier roman en date, La dernière fois qu'on s'est aimé. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Il s'adresse aux jeunes, plus spécifiquement aux ados.
Oui, c'est à partir de 13-14 ans. C'est une jeune fille qui est dans un bus, qui voit monter un jeune homme. Ils se connaissent, ils ont vécu quelque chose ensemble 18 mois plus tôt, et on va découvrir ce qu'il en est et ce qu'il en sera peut-être ou pas.
Et est-ce que en ce moment vous avez des projets d'écriture? Vous êtes sur un autre roman? J'imagine que oui.
Je suis sur un roman pour les 9-12 ans et qui a une dimension plus historique. J'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas il est prévu qu'il paraisse en octobre.
Bon, Marie Boulic, vous êtes déjà venue à Narbonne au Salon du Livre ou pas? C'est la première?
Non, c'est la première, mais on m'en avait parlé en me disant que c'était vraiment super accueil. Et effectivement, le salon ne désemplit pas depuis hier.
C'est pour ça qu'on invite les auditeurs de Grand Sud FM à venir vous voir, à venir découvrir vos romans. Les jeunes qui nous écoutent ou les parents qui nous écoutent, amenez vraiment vos jeunes parce que je pense qu'ils vont trouver de quoi se régaler côté littérature. Et c'est vrai que c'est important de lire aujourd'hui. En plus, ils vont pouvoir échanger avec Marie Boulic. Donc jusqu'à midi, le stand numéro 10. Moi, je vous remercie vraiment pour cette belle rencontre. Je vous souhaite de bien terminer ce salon et puis j'espère vous revoir peut-être l'année prochaine sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Merci Marie Boulic, à bientôt.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Je suis à côté du stand de numéro 10 de ce salon du livre du Grand Narbonne avec l'auteur carcassonné Stéphane Servant et l'illustrateur belge Nicolas Zouliamis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler de votre dernier ouvrage, l'ouvrage que vous avez écrit aussi en commun. Enfin, votre dernier, c'est pas le dernier, mais c'est l'ouvrage que vous avez écrit en commun, Monstre, du coup, qui est sorti en 2023. Alors tout d'abord, avant de parler du contenu du livre, j'aimerais m'arrêter sur l'illustration dont on va peut-être parler avec vous, justement, Nicolas Zouliamis. Il y a un petit côté sombre qui est donné dans cette illustration, parce qu'on voit, si on la décrit rapidement, un petit enfant de dos qui est dans une forêt. Est-ce que c'était le but, au premier coup d'œil, de donner un petit côté sombre à ce livre ?
Bien sûr, il y a une ambiance... inquiétante, c'était évidemment le but de ce livre. Ça joue sur le registre de la peur, de l'horreur, des monstres. Donc oui, bien sûr, il fallait installer quelque chose d'un peu inquiétant, un peu déroutant, qu'on sente qu'il y a un décalage dans ce livre, dans cet univers. Et puis petit à petit amener, on va pas en dire trop sur le livre parce qu'il y a une surprise, je pense qu'il faut ménager. Donc l'idée c'était d'aménager un climat comme ça et puis d'arriver à un point de rupture dans le livre et petit à petit d'aller vers. Je pense que le récit va quand même vers la lumière, vers quelque chose de positif au final, mais. Ouais, je voulais installer quelque chose d'inquiétant, quoi.
Voilà, une ambiance inquiétante, comme vous avez dit. Donc là, ce livre, c'est le fruit de votre collaboration. Et d'ailleurs, comment elle s'est faite, cette collaboration? Parce que quand on regarde vite fait, Stéphane Servant, originaire de Carcassonne, vous de Belgique, comment s'est faite cette collaboration?
Bah, c'est l'éditeur qui a pensé à moi. Moi, j'ai reçu un coup de fil des éditrices de Thierry Magnier qui m'ont expliqué qu'elles avaient un texte bizarre à me proposer et que ça me conviendrait sans doute. Voilà. Puis moi, j'ai lu le texte, j'ai adoré tout de suite. Puis finalement, avec Stéphane, on s'est appelé une fois au téléphone. Et j'ai bossé dans mon coin. Puis c'est plus après qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté. Et il m'a laissé beaucoup de liberté.
Voilà. Oui, bah, on voit de très très belles images dans le livre. J'invite d'ailleurs les auditeurs auditrices de Grand Sud FM à le découvrir, ce livre Monstre. Et on va parler un petit peu plus du contenu. Je vais me tourner vers vous maintenant, Stéphane Servant, vu que vous êtes l'écrivain, tout simplement, de ce livre. Alors, dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Otto, qui va voir son quotidien bouleversé suite à une rencontre, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, sans forcément tout dévoiler?
Oui, bon, alors, donc, c'est donc un enfant qui s'appelle Otto, qui vit dans un village perdu, au fond des montagnes, où il se passe pas grand chose, et effectivement, son quotidien est bouleversé quand arrive le cirque au village qui s'installe pour une nuit. Alors, évidemment, Otto est fasciné par tous les artistes du cirque, les jongleurs, les acrobates, mais surtout par le fameux monstre, qu'on ne voit pas au début, qui est dans une cage recouverte en un tissu noir, et tout le monde il va de ses suppositions sur son apparence, sa forme et sa bestialité surtout. Et il se trouve que Otto, ce petit garçon, va avoir une connexion particulière avec ce monstre et qui va changer, qui va bouleverser sa vie.
Voilà, on l'a compris, dans ce livre, il est question de monstres, mais pas forcément de monstres d'un point de vue négatif, parce qu'on est pour vous un petit peu le monstre de chacun, tout simplement. Est-ce que justement, c'est dans ce livre, le but, c'est de nous faire comprendre aussi qu'il ne faut pas avoir peur de nos différences, aussi de les assumer?
Alors moi, j'écris pas des livres pour faire passer des messages. Moi, j'écris des livres parce que je me pose des questions et j'aime bien partager ces questions avec les lectrices et les lecteurs. Au-delà de ça, effectivement, j'avais envie de décentrer le regard du lecteur sur voilà, il est question d'altérité du regard qu'on peut porter sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai nourri mon écriture de pas mal de choses très historiques, hein, notamment sur la façon dont on enfermait au jardin de l'acclimatation à la fin du siècle dernier les Kanaks, hein, les Indiens d'Amérique, et où on leur demandait d'assumer le rôle du sauvage dans une vraie mise en scène, et les gens y croyaient parce que l'autre n'a pas la même langue, la même couleur de peau. Et c'est cette question-là que je pose au lecteur à travers ce livre. Qui es-tu, qui est l'autre, et dans quelle mesure on peut se reconnaître dans l'autre?
Alors, le but, vous l'avez dit, c'est pas forcément de faire passer des messages. Pourtant, l'acceptation de soi, c'est ce qu'on retrouve souvent dans vos livres, comme par exemple dans Féline. Il y a quand même peut-être aussi une volonté, pas forcément de faire passer un message, de faire réfléchir la jeunesse pour éviter, par exemple, que cette jeunesse devienne les harceleurs de demain.
Ben non, j'aurais pas cette prétention. Moi, je pense que les jeunes sont assez sensibles et intelligents pour tracer leur propre route. Une fois encore, je le redis, moi, j'écris à partir de points d'interrogation. Et chacun, chacun apporte sa réponse, même si c'est vrai que j'ai une grande préférence dans tous mes textes pour les personnages en marge, ouais. Ceux qui sont à côté du monde, qui se demandent où est leur place. C'est ce truc qui est assez fascinant. C'est pour ça que je mets en scène souvent des enfants ou des ados, parce que tout se joue à cet endroit-là. Les choix qu'on fait, que les ados font aujourd'hui, détermineront qui ils seront plus tard en tant qu'adultes. Et effectivement, moi, ouais, très personnellement, j'aimerais que la société de demain soit beaucoup plus apaisée et fasse une plus grande place à l'autre.
Bon, ce livre, du coup, Monstre, écrit par vous, Stéphane Servant, et du coup, illustré par Nicolas Zouliamis. Donc, au départ, c'est plus de la littérature jeunesse, mais il peut être aussi apprécié par tous, notamment par des adultes, et ça a été remarqué au Prix Sorcière, le Prix Sorcière, du coup, 2024, dans la catégorie carrément passionnant. Est-ce que, pour vous, Nicolas Zouliamis, c'est votre plus belle récompense?
Oui. C'était une de mes premières récompenses, déjà. Et puis, c'est un prix qui a quand même, qui est prestigieux. Ouais, j'étais très content de recevoir ce prix.
C'est quand même quelque chose, parce que le Prix Sorcière, ouais, c'est pour des auteurs, c'est quelque chose d'important.
Oui, c'est important, ouais. Puis ça représente beaucoup de boulot, un livre comme ça, donc voir que ça rencontre un succès et puis un succès critique, c'est sûr que c'est important, ouais. Ça fait plaisir.
Et pour vous, Stéphane Servant, c'était pas votre première récompense, mais est-ce que ce Prix Sorcière, il avait une petite saveur particulière?
Ouais, bah, le Prix Sorcière, c'est en fait un prix qui est décerné par les librairies jeunesse de France en association avec l'association des bibliothécaires de France. Donc c'est une espèce de reconnaissance de la profession. Je crois que la vraie récompense, c'est de rencontrer le public, comme aujourd'hui à Narbonne. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que les gens pouvaient découvrir le livre, et il se trouve qu'il n'y en a plus. Parce que tout a été voilà non pas du tout, mais voilà, le succès est vraiment au rendez-vous. Dès hier soir il y avait plus de livres, et puis il a vraiment, enfin c'est un ouvrage assez atypique, qui est vraiment, qui tient du roman graphique et qui a vraiment une belle vie. On est traduit dans 6 langues, il y a un projet peut-être de film d'animation aussi pour France Télévisions. Okay. Donc ça serait c'est une belle trajectoire pour un livre très atypique.
Vous m'avez devancé justement sur la dernière question. J'allais vous demander, parce que souvent vos livres sont adaptés en pièces de théâtre, vu que vous travaillez aussi avec des compagnies théâtrales, tout simplement. Donc là, on aura peut-être la chance de voir Monstre en film d'animation, mais peut-être sur d'autres plateformes.
Alors, film d'animation, et effectivement, il y a déjà une adaptation théâtrale. C'est une compagnie de Saint-Étienne qui l'a porté au plateau. Moi, j'ai toujours pas vu, Nicolas non plus. L'adaptation, je suis très curieux, parce que voilà, vous l'avez compris, tout repose sur le mystère, sur les choses qui sont cachées derrière ces rideaux du cirque. Donc je suis très curieux de voir comment ils ont adapté ça et mis en scène ça pour le théâtre.
Voilà, bon, mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis. Bon, on l'a dit, malheureusement, plus de livres monstres, justement, au stand numéro 10, ici, au Salon du Livre du Grand Narbonne, mais énormément d'autres livres disponibles dans votre univers, Stéphane Servant, et dans le vôtre aussi, Nicolas Zouliamis. En tout cas, merci une nouvelle fois de nous avoir accordé quelques minutes au micro de Grand Sud FM.
Merci à vous.
Merci à vous, bonne journée, bon Salon du Livre.
Cultura est présent sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Moi, je suis en compagnie de Brigitte, qui anime tout simplement des ateliers pour Cultura, des ateliers qui sont gratuits. Bonjour Brigitte.
Bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, on a encore 4 ateliers. On en a un qui va démarrer dans 10 minutes.
Tout à fait. Donc, on va débuter la journée avec décoration de galets au feutre Posca. Donc, ils sont des feutres acryliques. Et là, les enfants vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination.
Ensuite, de 13h à 14h, là, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il faut juste prévoir de venir assez tôt.
Là, donc cet atelier-là sera dédié à la colorisation d'un manga avec des feutres à alcool, où là, on va donner des exemples aux enfants, et pareil, ils pourront colorier comme ils le souhaitent.
Et puis, vous devez connaître Poulette Magique. Figurez-vous qu'elle est sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Elle est au stand numéro 18, le stand de Cultura. Mais cet après-midi, on aura la chance de la voir directement sur ce stand d'animation, Brigitte.
Ben oui, on est hyper contente de pouvoir collaborer avec elle. Et donc, cet après-midi, elle va proposer aux enfants de réaliser dans un contenant du sable coloré. Je ne vous dévoile pas toutes les secrets de cette fabrication de potions. Et donc, les enfants pourront repartir avec leur réalisation.
Voilà, et puis un dernier atelier, parce que je vous rappelle que le Salon du Livre se termine aujourd'hui à 17h, donc 15h45. C'est parti pour de l'aquarelle. Aquarellum ?
Oui, c'est aquarellum, c'est de la peinture aquarelle pour les enfants. Donc, on a 4 modèles à leur donner. Et ils pourront donc s'initier à l'aquarelle avec nous.
Alors ici, tout est gratuit sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne, mais Brigitte, je sais qu'aussi au sein du magasin Cultura, vous animez des ateliers. On peut venir les faire, c'est le mercredi ?
Alors, tout à fait, on en a tous les mercredis, tous les samedis pour les enfants et les adultes. On en a aussi dans la semaine et actuellement, on est en opération jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, Cultura souhaite être le plus grand atelier créatif de France. Et là, on peut vous initier à l'aquarelle, au dessin, à la gesmonite, mosaïque, broderie, couture et tout ce qu'on peut faire en magasin. Donc, venez nous voir, on vous accueillera avec plaisir.
Bon, venez déjà voir Brigitte et toute son équipe parce qu'on a aussi un espace jeu. Enfin, Eric n'est pas là ou il est en train de jouer, je le vois pas.
Ouais, il est en train de jouer, il est passionné. Donc, venez nous rejoindre sur l'espace jeu. On a plein de nouveaux jeux à vous faire découvrir. Venez, des jeux adultes, des jeux enfants et venez les tester avec nous.
Ah oui, on a eu la chance d'interviewer hier Guillaume Molinier avec le 6 du Nord. Ça, c'est un jeu narbonnais fabriqué en France. Donc, venez le découvrir. Ça aussi, c'est gratuit. Merci Brigitte. Je vais vous laisser débuter dans quelques instants votre atelier. Donc, les enfants, les parents qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à venir avec les enfants. Je rappelle que c'est gratuit. C'est au centre, en fait, sur le cours Mirabeau. C'est au centre de ce Salon du Livre du Grand Narbonne. Merci Brigitte. Bon salon et puis à bientôt.
Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée.
Voilà, donc on va aller au cœur des Halles tout de suite. On va retrouver Céline Pernaud-Burlet. Elle est illustratrice, elle est facilitatrice graphique. On va voir avec elle, on va parler vin à consommer avec modération. Et puis on aura également Stéphane Romain, chargé de communication des Halles de Narbonne, qui est en train de nous préparer quelques petits sablés. À tout à l'heure. Alors, j'ai plusieurs invités aujourd'hui au cœur des Halles de Narbonne. Je vois Emma Velotti qui est venue faire un petit tour aussi pour découvrir l'atelier. Bonjour Emma.
Oui, comme chaque année, c'est une belle rencontre qui va se passer aux Halles. C'est une rencontre gourmande et je suis sûre qu'on va passer un très bon moment.
Et ben voilà, on va se régaler dans quelques instants. Merci Emma et bon salon. Donc je suis avec Céline Pernaud-Burlet, je suis également avec Karine Nirouz. Alors Céline Pernaud-Burlet, elle est illustratrice, facilitatrice graphique comme on dit. Et on a Stéphane Romain aussi qui est affairé à nous faire ses petits sablés au parmesan. Et puis Karine Mirouz qui est à la tête du château Beauregard Mirouz de Bizanet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc déjà, moi je vais commencer avec vous Céline. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser finalement le dessin pour expliquer des concepts un petit peu complexes ?
Parce que le dessin, ça permet d'apporter une couche de compréhension supplémentaire au texte et du coup l'image... on dit souvent une image vaut mille mots, donc
d'où le dessin. Alors les 4 saisons du vin, c'est cet ouvrage que vous êtes venu présenter aujourd'hui sur le Salon du Livre du Grand Narbonne. Bon là on est au cœur des Halles, mais on vous retrouve aussi sur le stand numéro 15. Donc vous avez collaboré avec Alessandra Fortorino, c'est ça ?
Oui, qui est une experte du vin et qui on a eu un premier ouvrage dans lequel on a raconté un petit peu les femmes du vin. On a voulu montrer que les femmes, elles ont toute leur place dans le milieu du vin et elles sont dans l'excellence comme les hommes. Et parler du sexisme, aborder aussi le sujet du sexisme au travers de cet ouvrage. Et dans le deuxième livre, en fait, on a voulu raconter comment on fait le vin au fil des 4 saisons. Et en fait, on s'est inspiré du travail de Karine et Nicolas Mirouz qui travaillent dans la région.
Alors justement, Karine, comment ça s'est passé, Karine Mirouz ? Donc vous êtes à Bizanet, le château Beauregard Mirouz. C'est-à-dire que finalement, Céline est venue passer une année avec vous ?
Alors, c'est Céline et Alessandra, elles sont pas venues passer une année, mais ça s'est fait avec beaucoup de contacts, de rencontres, de photos qu'on a envoyées, qui sont inspirées et de raconter. Alors Alessandra, elle est venue au domaine il y a 2 ans peut-être maintenant. On a fait une grande visite et c'est là qu'elle a eu l'idée que nous soyons un peu le fil rouge des 4 saisons parce qu'on a une manière de travailler en bio, biodynamie, vin naturel, 120 ans qui l'inspire, qui inspire aussi Céline. Hein, c'est aussi autour de cette thématique-là, de la vinification respectueuse de l'environnement, des gens, du palais, voilà.
Alors ça s'appelle le château Beauregard Mirouz à Bizanet. On peut venir vous voir, vous ouvrez les portes facilement de votre domaine.
Alors, on ouvre les portes facilement, mais sur rendez-vous. Et là, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a fait une grande fête avec les Calandrettes, où on était plus de 250, avec un concert de la Malcoiffée. Et cet été aussi, on organise, ma fille, elle organise un festival qui s'appelle Écran d'été, avec des projections de films dans la cave. Donc, avec dégustation, tapas et des projections de films dont elle fait la programmation. Donc, ça sera les mardis soirs de juillet.
Eh ben là, faut vous suivre hein, tout simplement sur les réseaux Château Beauregard Mirouz à Bizanet. Céline Pernaud, qu'est-ce que vous trouvez de particulier à ce vin justement, ce vin de Bizanet du Château Beauregard Mirouz?
Déjà, c'est super important la manière dont c'est fait. Donc Karine le disait, c'est sans intrants, c'est respectueux de la nature, c'est respectueux des gens qui vivent autour, et les gens qui le boivent, c'est de la poésie en bouteille en fait.
Céline Pernaud Burlé, pour faire ce genre d'ouvrage, j'imagine qu'il faut être une épicurienne.
Oui, complètement. En fait, Alessandra Fotorino, du coup, pendant notre premier ouvrage, m'a fait découvrir plein de vins. Je connaissais pas vraiment les vins vivants et j'ai découvert tout un univers qui m'a inspirée, fascinée. Et depuis, je peux dire que je goûte principalement ces vins vivants avec plaisir et tout le... Ce qu'on a voulu faire dans les quatre saisons du vin, c'est aussi raconter comment on accorde les vins et les mets. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une balade. Alors, on raconte comment on fait le vin et les difficultés que rencontrent les vignerons vivants aujourd'hui avec tout ce qui est dérèglement climatique, qui les impacte beaucoup. Et on a voulu quand même que ce soit une balade gourmande. Et du coup, c'est pour ça qu'on a on a accompagné chaque vin d'une recette dessinée pour donner envie aux gens des recettes très simples comment on va les faire aujourd'hui. Avec Stéphane Wall, des recettes très simples à cuisiner, mais qui s'accordent parfaitement avec ce genre de vin.
Voilà. Bon, j'ai bien compris, Céline Pernaud-Burlé, que vous aimez beaucoup le vin, que vous l'appréciez grandement, ce vin du Château Beauregard Mirouz de Bizanet, à consommer avec modération. Mais est-ce que je peux vous demander si vous avez un coup de cœur côté vin, s'il y a une région qui vous régale plus qu'une autre hein?
Voilà, moi j'avoue, j'aime beaucoup les Corbières, mais j'aime particulièrement aussi les vins de Loire. Avec une petite passion pour le Chenin, dans la région d'Anjou, voilà.
Ah oui, je vois bien. Bon, ben merci beaucoup pour ces précieux conseils. Donc on vous retrouve toute la journée aujourd'hui sur le stand 15.
Oui, complètement. Je suis sur le stand de BD Compagnie, sur le salon du Grand Nord. C'est ça.
Allez, jusqu'à 17h, n'hésitez pas, pour l'instant, vous pouvez venir au cœur des Halles. On va tendre le micro à Stéphane Romain, chargé de communication des Halles de Narbonne, qui s'affaire grandement à faire ses petits sablés au parmesan. Bonjour Stéphane.
Et bonjour. Oui, effectivement, donc on est sur du petit sablé au parmesan. Donc il a fallu qu'on choisisse avec Céline. Alors ça a été très difficile parce qu'elle a des superbes recettes dans son livre, hein, qui sont associées chaque fois à un vin d'une région de France. Hein. Donc on s'est attardé sur cette recette parce qu'elle est facile à faire, elle est facile à confectionner. Et on s'est dit qu'à 11h, en fin de matinée, avec le beau temps qu'il y a, on allait pouvoir faire un petit temps apéritif très sympathique. On l'a associé bien évidemment à un vin de chez nous. Et donc ce fameux Château Beauregard Mirouz et la cuvée Lozina, qui est une cuvée absolument splendide, superbe. Donc on va inviter donc les Narbonnais, les visiteurs des Halles, à déguster ce vin et ces petits sablés au parmesan qu'on a confectionné ce matin, qu'on va confectionner aussi devant eux avec la main experte de Céline qui va venir nous accompagner dans cette mission. On est avec France Bénévolat aussi, comme chaque année, il faut le dire, là, des bénévoles de France Bénévolat qui nous donnent un petit coup de main pour réaliser ces animations. Écoutez, on se réjouit, on fait coup double, hein, des bons produits à manger, du bon vin à consommer avec modération. Donc effectivement, on est heureux, on est content.
Bon, on vient à quelle heure? On vient à midi?
On vient à 11h.
Il est 11h déjà, il est 11h.
On va attaquer, dépêchez-vous, pressez le pas, mais il n'y aura pas pour tout le monde, mais si vous vous dépêchez, vous allez pouvoir en profiter.
Allez, vous venez au cœur des Halles de Narbonne, et puis vous retrouvez Céline Pernaud-Burlé, stand numéro 15, avec donc ce livre qui s'appelle « Les quatre saisons du vin ». Vous allez adorer, comme ça vous aurez plein d'idées pour accorder le vin avec les mets. Merci Karine Mirouz, et puis au plaisir peut-être de vous retrouver au Château Beauregard Mirouz. Aujourd'hui en tout cas, les auditeurs peuvent venir à votre rencontre, vous allez partager avec eux votre passion du vin.
Bien sûr, la passion du vin, et j'ai adoré collaborer sur ce livre qui est une vraie balade gourmande et en même temps qui est une vraie mise en lumière du travail un peu à l'arrière. Quand on boit un vin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben voilà, il y a un sacré travail, il y a des ennuis, il y a beaucoup de réjouissances, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes, et je trouve qu'elles l'ont bien décrit. Donc merci à elle et merci au Halles de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie d'être là.
Bon, ben bonne dégustation en tout cas. Merci Céline Pernaud-Burlé. C'était pas la première, donc du coup à Narbonne. Mais j'espère que vous reviendrez encore avec d'autres ouvrages, peut-être l'an prochain, nous voir sur le Salon du Livre.
Avec grand plaisir.
Merci. Et puis merci Stéphane Romain, je vous laisse cuisiner tranquillement. Et puis on attend les auditeurs, peut-être qu'on aura la chance de déguster un petit sablé au parmesan. Merci, bon dimanche et à bientôt.
Bon dimanche et bienvenue sur Halles de Narbonne, jusqu'à 13h, 14h, on vous attend.
Voilà Jean-Michel, je sais même pas trop quelle heure il est, mais je vais regarder ça tout de suite, il est 11h08. Donc on invite les auditeurs de Grand Sud FM à venir sur ce salon du livre du Grand Narbonne. Hein, je vous le rappelle, le salon du livre qui a lieu jusqu'à 17h sur le cours Mirabeau. On a de nombreux auteurs, je vous rappelle aussi que c'est la 11e édition, je vous rappelle que Michel Bussy est là, il sera là jusqu'à 17h, c'est le parrain de cette édition. Et puis il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les enfants, il y en a pour les amateurs de polar, pour ceux qui aiment l'histoire, enfin vraiment, vous allez vous régaler, il y a un monde fou. Je rappelle que l'entrée est gratuite et je vous rappelle aussi que les enfants sont les bienvenus. Comme l'a dit Cultura tout à l'heure, il y a des ateliers qui sont proposés tout l'après-midi, donc des ateliers gratuits. On peut jouer aussi et découvrir des jeux sur ce centre de Cultura. Et puis, bah, c'est le moment de faire le plein de livres pour cet été. Voilà, merci de nous avoir suivis. On remercie tous les auteurs qui se sont prêtés au jeu, bien évidemment, de ce Salon du Livre. Et on remercie le Grand Narbonne de nous avoir fait confiance. Et puis, je vous invite vraiment à venir passer cet après-midi sur le Salon du Livre du Grand Narbonne avec le beau temps qui est au rendez-vous. Ben, c'est le moment ou jamais. Bon dimanche à tous, on se retrouve demain et puis à bientôt.